J'ai fini ma leçon à 11h30 hier soir. Je suis allé me coucher. Je suis un petit peu off. Alors, si vous voulez prendre les notes, s'il vous plaît, il y a des notes sur les deux, sur les chaises des coins. On est dans le cours sur l'Esprit Saint. Et puis, l'Esprit va amener d'autres participants dans les prochaines minutes. J'ai confiance. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, ce matin, on va s'attarder au verset 18 à 21. OK. Alors, on est dans le cours « L'Esprit Saint et vous », question pratique, leçon 6. Ce matin, le titre de la leçon, c'est « Imaginez être rempli de l'Esprit ». Et on va aller dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, merci pour ce temps ensemble dans ta parole. Je te demander, Père, de venir nous édifier, de venir parler à nos cœurs. Seigneur, viens faire une œuvre dans nos cœurs par ton Esprit ce matin. Et nous parler de toi, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour pour nous, Seigneur. Viens, Seigneur, éclairer notre compréhension alors qu'on est en train d'essayer de saisir comment tu travailles dans nos cœurs, comment est-ce que tu œuvres. Toute cette question de la plénitude de l'Esprit, Seigneur, on voudrait toujours être porté par ton Esprit. On voudrait toujours être motivé, être poussé en avant par ton Esprit. Comment est-ce qu'on fait ça, Seigneur? Comment est-ce qu'on fait pour être toujours rempli de l'Esprit? Seigneur, j'aimerais te demander de venir nous bénir ensemble ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. OK, je vais répéter vos commentaires pour que ce soit placé dans l'enregistrement. Quelqu'un qui peut me dire en une phrase, selon vous, c'est quoi être rempli de l'Esprit? Et j'aimerais ça que vous ne vous censuriez pas. Parce que moi, je pense qu'on a toutes sortes d'idées sur ça. Alors, vous allez peut-être dire des affaires bizarres. Vous avez juste à dire, c'est pas ce que je pense, mais j'ai entendu que. D'accord? C'est quoi être rempli de l'Esprit? Selon vous ou selon ce que vous avez entendu? De sport? OK, une équipe de sport. Donc, être rempli de l'Esprit, c'est l'unification d'un groupe dans le sens de vous et l'Esprit Saint ou l'Église? Qu'est-ce que vous avez en tête? Dans l'Église. OK. OK, bien, je vais poser une question suite à votre commentaire. Est-ce que la plénitude de l'Esprit, c'est une question individuelle ou c'est une question d'Église, d'Assemblée? Les deux? Dans quel sens les deux ou dans quel sens individuel? Alain? OK, donc, ce serait quelque chose d'individuel. Être rempli de l'Esprit, c'est être convaincu de faire la volonté de Dieu, non? OK, de bien. Et aussi, il y a un élément de force qui est donné, qui vient avec pour faire la volonté de Dieu. OK, la force viendrait de la conviction qui nous est donnée de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut qu'on fasse. Une dernière personne qui veut s'essayer, ce serait quoi être rempli de l'Esprit? Oui. Donc, il y aura un élément individuel, parce que notre corps appartient à Dieu, puis il y aura un élément communautaire, parce que Dieu rassemble les croyants, il donne à son Église les croyants. OK. Juste vous faire observer, dans la même lettre, à quelques versets de distance, si vous avez vos Bibles ouvertes avec moi, dans Éphésiens 4, ce matin, on s'attarde à Éphésiens 5, 18 à 21, mais regardez Éphésiens 4, 30. On a vu ça ensemble la semaine dernière, et je veux juste souligner le fait que les deux directives sont très, très près l'une de l'autre, et je pense qu'il faut en tenir compte. Alors, Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Puis, Éphésiens 5, 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Pas au contraire par rapport à attrister, là. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » On en a parlé la semaine dernière. Éphésiens 5, 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Je voulais juste faire remarquer que ces deux choses-là sont proches, ce sont des directives. Et je pense que ça vaut la peine de le remarquer, parce que je crois qu'une partie de la réponse se trouve en remontant jusqu'au début du chapitre 4. Alors, c'est ça. Une autre chose que je voulais mentionner, lorsqu'on regarde à partir de Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 17, j'ai fait une erreur. À partir du verset 17, Éphésiens 4, 17, Paul entre dans une partie très pratique de la lettre où il donne des directives très courtes. D'accord? Ça devient des directives brèves, très concrètes. Verset 17, « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. » Là, il va parler de la débauche. Après ça, il va parler de la colère. Il va parler de se revêtir de l'homme nouveau. Il va parler de travailler plutôt que de dérober. Verset 29, il va parler de ce qui sort de notre bouche. Verset 30, 31, il va parler de ce qu'on garde dans notre cœur, l'amertume, la colère, ces choses-là. Donc, ça devient très, très, très pratique. D'accord? Est-ce que vous êtes familier avec cet aspect-là des lettres de Paul où Paul a un bloc qui est très théorique, puis après ça, il entre dans une phase pratique? Qui est familier avec ça? Alors, la prochaine fois, vous allez lire les lettres de Paul, d'accord? Toutes les lettres de Paul. Soyez attentifs à ça. Et il y a vraiment une partie où il dépose la théorie, puis après ça, à un certain moment donné, Paul, il dit, « Donc, voici ce que ça doit changer dans vos vies. » Et tous les aspects pratiques qui suivent reposent sur ce qu'il nous expliquait avant, qui doit remplir nos cœurs, qui doit remplir notre pensée. On est dans cette partie pratique-là. Et donc, il y a plusieurs directives qui se ressemblent un petit peu. Moi, je relisais le passage, je relisais, puis je voyais que c'est beaucoup consacré. Marche pas comme le monde, marche selon ta nouvelle vie, marche selon l'homme nouveau. Fait qu'à un certain moment donné, tu dis, OK, marcher selon l'homme nouveau, être rempli de l'esprit, ne pas attrister l'esprit, c'est toujours des éléments de consécration, des éléments de marcher vraiment selon la pensée de Dieu. Juste quelques observations. Alors, c'est quoi les questions qui sont utiles de se poser lorsqu'on est en train d'aborder ce texte-là? J'en ai résumé quelques-unes au milieu de la page 2. Question à se poser, que signifie être rempli de l'esprit? Paul nous donne une directive d'être rempli de l'esprit. Comment s'y prend-on? Alors, Paul, il dit, soyez rempli de l'esprit. OK, comment? C'est quoi la formule? Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y a une méthode 1, 2, 3? Quand je dis ça, je ne suis pas en train de faire des blagues. Est-ce que c'est confesse tes péchés? Va dans la prière, tu vas être rempli de l'Esprit. Est-ce qu'il y a un processus à suivre pour être rempli de l'Esprit? Un commandement nous est donné, comment on le fait? Y a-t-il une méthode, des étapes à suivre pour être rempli de l'Esprit? S'agit-il de la même réalité que Luc nous rapporte à plusieurs reprises dans le livre des Actes? Alors là, vous pouvez penser au livre des Actes. À plusieurs reprises, il est question des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. D'accord? Au moment de la Pentecôte, mais après ça, à plusieurs reprises aussi, il y a des individus qui ont été choisis parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on parle de la même expérience? Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui nous informent ou qui nous confirment qu'on est rempli de l'Esprit? Qu'est-ce qui me dit que je suis rempli de l'Esprit? Certainement que je fais le bien plutôt que faire le mal, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je veux dire... Est-ce que dans notre expérience, être rempli de l'Esprit, c'est lorsque ton cœur déborde de joie? Puis là, c'est simple de servir le Seigneur. Tantôt, Alain parlait de force, tu sais. Est-ce que je suis rempli de l'esprit lorsque je sens que c'est comme, c'est pas lourd. Je suis dans une épreuve, j'ai prié, puis là, je suis rempli de l'esprit, je traverse mon épreuve avec allégresse, avec paix, avec sérénité. Donc, je suis rempli de l'esprit. Est-ce qu'il y a des signes qui me disent que là, j'ai la plénitude de l'esprit? Est-ce que c'est les résultats? Je m'en vais faire de l'évangélisation, puis... Ouais, mes amis, ça vient, ça coule, les paroles viennent, les bonnes pensées au bon moment. La personne répond, wow, je te remplis de l'esprit aujourd'hui. Une autre journée, je m'en vais faire de l'évangélisation, puis tout est ardu, c'est confrontant, puis peut-être que je t'ai pas rempli de l'esprit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des signes qui nous disent, je suis rempli de l'esprit? Il y a les fruits du Saint-Esprit. Alors, est-ce que lorsque je suis rempli de l'esprit, je porte les fruits du Saint-Esprit? Bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on se pose ces questions-là. Je pense qu'il y a des moments où on vit la vie chrétienne un peu lourdement, puis là, on dit, « Ah, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit pour que la vie chrétienne soit plus facile, puis pas plus facile dans le sens moins d'épreuves, que je la vive mieux. » Non? Il me semble qu'on naturellement, on a tendance à chercher ces choses-là. Dans quelle mesure est-ce que c'est biblique, tout ça? Alors voilà, ça, c'est des bonnes questions à se poser. On va essayer d'y répondre ensemble. Comme on fait depuis le début, on regarde un peu comment le passage a été interprété à travers l'histoire de l'Église. Puis après ça, on va regarder le texte et son contexte lui-même, puis on va essayer de tirer des conclusions ensemble. Alors, vous avez toujours votre première page, qui est en fait ma page 2. Là. Interprétation à travers l'histoire. Jean Calvin compare le comportement de la personne qui est remplie de vin et qui se livrera à toutes sortes de comportements inacceptables, toutes sortes de péchés, et le comportement de la personne qui est remplie de l'Esprit, qui lui va... faire des choses, ils vont marcher avec foi, avec joie, dans la crainte de Dieu. Alors, Jean Calvin, il disait, être rempli de l'esprit, c'est avoir une plénitude qui est totalement l'opposé d'être rempli de vin. Rempli de vin, qu'est-ce que tu fais? T'es attiré au péché, t'as le goût d'aller, t'as le goût de dire des niaiseries, ta vieille nature ressort, n'est-ce pas? Si t'es rempli de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Bien, Calvin disait, il va y avoir de la joie. Il va y avoir de la paix, il va y avoir de la crainte de Dieu. Ça, ce sont des choses que lui voyait dans ça. Est-ce qu'il les prend dans le texte? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et il va être rempli de ce que l'Esprit donne. D'accord? Alors, Calvin voyait beaucoup l'idée de celui qui est rempli de l'Esprit, c'est que ce que l'Esprit donne, ça va être là en lui, puis ça va sortir. Que ce soit des dons, que ce soit des fruits de l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit? Il s'en va ailleurs dans les Écritures, puis il dit, qu'est-ce que l'Esprit est là pour nous donner? La conviction qu'on a été adopté, par exemple, un esprit d'adoption, les fruits de l'Esprit. Et si j'ai ces fruits-là en abondance, je suis rempli de l'Esprit. En gros, c'est à peu près ça l'approche de Jean Calvin pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. John Stott. Quelqu'un connaît John Stott? Ça vous dit quelque chose? OK. C'est un bon monsieur à fréquenter. John Stott, dans ses livres, aujourd'hui il n'écrit plus, mais c'est un de nos contemporains, il est encore vivant. John Stott, dans son livre « Baptism and Fullness, the work », je m'excuse, j'ai fait ça hier soir très tard, « The work of the Holy Spirit today », fait déjà une distinction en partant entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Alors, John Stott associe définitivement le baptême du Saint-Esprit à l'expérience de la conversion, à l'expérience de la nouvelle naissance, lorsqu'on passe de notre mort spirituelle à notre vie spirituelle, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous. Et John Stott dit, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il y a la plénitude de l'Esprit. Une des choses que Stott fait remarquer, c'est que Éphésiens 5:18, c'est le seul passage où il nous est donné la directive d'être rempli de l'Esprit. OK, retenez ça, parce que lorsqu'on va lire le livre des Actes, on va aller voir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, et ce n'est pas clair qu'ils ont fait quelque chose intentionnellement dans le but d'être remplis de l'Esprit. Paul nous dit ici, « Soyez remplis de l'Esprit. » Vous devez être remplis de l'Esprit. « Soyez remplis de l'Esprit. » OK, qu'est-ce que je fais? Il faut que je sois rempli d'esprit. Lorsque je suis dans le livre des Actes, pouf, il était rempli du Saint-Esprit. Là, tu dis, est-ce qu'il est en train d'obéir à une directive? Il n'y a pas de directive. C'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où il nous est donné une directive d'être rempli de l'Esprit. C'est juste un élément à remarquer. Ça peut nous aider après à comprendre puis à observer des nuances. Le fait que Paul l'écrit dans la lettre aux Éphésiens, puis que ça semble être comme dans toute une série d'exhortations pratiques, bien Paul il dit que c'était une expérience commune dans l'Église. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Quand vous lisez Éphésiens 4, Éphésiens 5, vous êtes en train de lire, regardez, on va commencer un tout petit peu plus tôt là. Verset 15. « Prenez donc garde, Éphésiens 5, 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça parle de notre gestion de temps. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père en toutes choses. » Excusez-moi, à Dieu le Père, en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Puis là, il rentre dans le couple, femme, que chacune soit soumise à son mari. Ça ne semble pas être quelque chose d'extraordinaire là, qui se passe ici. C'est comme la marche chrétienne, êtes-vous d'accord? Ça semble être une directive. Est-ce que c'est extraordinaire pour un chrétien de ne pas s'enivrer de vin? J'espère que non. C'est pas quelque chose d'extraordinaire dans votre vie quand vous n'êtes pas sous? Non? OK. Ça semble aller dans ce sens-là. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire, ça? C'est assez ordinaire. On s'entretient par des cantiques. On chante des cantiques. Puis on essaie de s'édifier mutuellement. Donc, Stott fait juste remarquer, il dit, ça semblait être une expérience commune. Alors déjà, c'est intéressant. Si Stott a raison, si John Stott a raison, ça peut déjà venir affecter votre compréhension de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que, selon vous, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience exceptionnelle? Je ne sais pas. Une fois par mois, tu finis une journée, puis quand tu finis ta journée, tu te dis, « Boy, je te remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. J'espère que je vais en avoir une autre comme ça le mois prochain. » Ou est-ce que c'est comme quotidien dans votre vision, c'est quelque chose qui est tous les jours rempli de l'Esprit? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui voient qu'il est... Vous aviez tendance à dire, non, je pense que c'est quelque chose, moi personnellement, là, naturellement, c'est ça ma vision. Là. Si je ne conforme pas ma pensée aux Écritures, là, ma vision, c'est que je suis rempli de l'Esprit de temps en temps. Puis le reste du temps, j'essaye fort, fort. Ça, c'est ma vision naturelle à Yannick, si je ne conforme pas ma pensée aux Écritures. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient tendance à penser comme moi? OK. Bon, on est au moins trois mêlés. On va se démêler ensemble. Honnêtement, je vous pose la question, est-ce qu'hier vous étiez rempli de l'Esprit? Est-ce qu'actuellement vous êtes rempli de l'Esprit? Si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que vous pensez que vous êtes rempli de l'Esprit actuellement? OK, ceux qui sont remplis de l'Esprit, faites juste lever la main. On ne mettra pas ça sur une échelle de 1 à 10, là, on n'ira pas jusque-là. Jess? Je pense que non. Je pense qu'on ne doit pas essayer de graduer ça. Mais je veux juste faire ressortir le fait que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, en général, ont tendance à voir la plénitude de l'Esprit comme quelque chose d'un peu exceptionnel. Je doute que la majorité des gens pensent que c'est... Moi, généralement, je suis rempli de l'Esprit. C'est ma vie normale. Oui, Suzy. OK, alors Suzy, oui, Suzy dit que peut-être que c'est dans notre perception, dans notre collaboration avec l'Esprit-Saint, puis on a l'impression qu'on travaille pas toujours avec l'Esprit-Saint tous les jours. Ça va-tu dans ce sens-là, ton commentaire? Donc, toi, tu es rempli de l'Esprit combien de jours par mois?
Ben,
puis ton expérience, c'est de ça?
Non, parce que souvent, je veux dire, la tendance humaine, il arrive quelque chose, hein? C'est que Suzy, t'es capable.
Oui.
OK. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'essayer de faire là, en insistant sur ça? Là? On pense que notre pensée est biblique, mais très, très vite dans notre expérience de la journée, je passe à travers ma journée, je suis comme, c'est comme l'eau, puis assez vite, je peux développer une vision que c'est quelque chose d'exceptionnel d'être rempli de l'Esprit. Puis il y a des gens comme qu'ils sont plus souvent que les autres. Bah, peut-être parce que tu as un péché dans ta vie, mais selon les Écritures, ça semblait assez commun comme expérience. J'avais 2-3 mains, là. Est-ce que vous vouliez faire un commentaire? Je vais venir à vous, Mme Pitre. Ça va rentrer.
Okay. Ça va être bon.
C'est correct.
Puis, à chaque jour de nos vies, ça se peut qu'il y a des moments où est-ce que notre esprit vient confronter l'esprit de Dieu.
Mm-hmm.
Parce que ça se peut que dans nos vies, on peut avoir des perceptions des choses qui nous entourent qui ne sont pas du tout bibliques. À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui peut venir nous éclairer parce que justement, on n'est pas rempli de la volonté de Dieu ou de son éclairage sur des situations qui nous entourent, mais l'Esprit est à l'œuvre. Donc, il y a différentes, je pense qu'il peut y avoir différentes manifestations de l'action du Saint-Esprit sur nos vies qui tend à nous pousser vers la connaissance de ce que Dieu veut pour notre situation, mais qu'on ne le ressente pas comme étant une action du Saint-Esprit, qu'on le sent plutôt comme un combat personnel.
Donc, tu verrais... Tu verrais, par exemple, la plénitude de l'Esprit ou un indice possible de la plénitude de l'Esprit juste dans le fait qu'on est ici pour étudier la parole de Dieu?
Bien, d'une certaine façon, oui.
OK. OK. Madame Pitre. Oui, oui. Quand vous êtes au contrôle, vous voulez dire, admettons, quand vous êtes, vous avez de l'inquiétude, puis vous voulez tout contrôler. Oui. Oui, oui, oui. Mais on pourrait dire que c'est les Écritures nous disent que les fruits de l'Esprit, c'est la paix, la joie, quand vous êtes en train de vivre ces choses-là. C'est une œuvre de l'Esprit dans votre vie. Il y avait un autre commentaire ici, puis après ça, on continue à avancer. Oui. Est-ce que vous entendez bien là-bas? Oui, OK. 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 Donc, c'est possible d'attrister ou de dire atténuer, là, pour reprendre ton terme, lorsqu'on pêche, l'esprit, puis lorsqu'on est en train de marcher avec le Seigneur, mais l'esprit a toute la liberté de travailler. Ça résume-tu ta pensée un peu? Oui. OK. 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 quand tu es en train de collaborer, quand tu es en train de marcher avec le Seigneur. Un élément que je voulais faire ressortir de ça, c'est parce que je trouve que John Stott fait une bonne observation. C'est pas nécessairement extraordinaire être rempli de l'Esprit dans le passage ici, puisque c'est une directive qui est donnée à tout le monde. D'accord? Parce qu'on va aller voir quelques passages où c'est pas mal extraordinaire être rempli de l'Esprit, ou en tout cas, il y a des manifestations extraordinaires qui accompagnent ça. Et je pense que c'est important de saisir le passage ici où c'est une directive qui est donnée, puis de comprendre que les fruits sont probablement beaucoup plus simples qu'on aurait tendance à le croire, et être content de ça, être heureux de ça, plutôt que de chercher comme la chose extraordinaire, parce qu'en même temps, on ne reconnaît pas l'œuvre que l'Esprit est en train de faire de nous à tous les jours, là. Quand le matin, je me lève, puis je m'entretiens dans la parole, puis avec des cantiques, tout ça, bien, probablement qu'il y a une plénitude de l'Esprit, là. OK. Toujours à la page 3 ou à la deuxième de vos feuilles. John Stott, lui, voyait ce qui suit dans les versets 19, 20 et 21 comme des marques de la plénitude de l'Esprit. OK? Ça, c'est une question qu'on a à se poser avec ce passage-là. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Est-ce que les choses qui suivent, c'est un moyen pour être rempli de l'Esprit, ou est-ce que les choses qui suivent sont celles qui viennent quand tu es rempli de l'Esprit? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que c'est une formule pour arriver à la plénitude de l'Esprit, ce qui suit, ou est-ce que c'est des fruits qui viennent parce que tu es rempli de l'Esprit? Paul dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce. Donc, Stott dit, chanter des louanges, avoir un cœur qui est rempli d'actions de grâce, avoir une attitude de soumission mutuelle, ce sont des marques de la plénitude de l'Esprit. D'accord? Une observation qui est importante, je ne me souviens plus où je l'ai mis dans mes notes, mais c'est important que vous le sachiez. En grec, là, la phrase commence au verset 18 avec « Ne vous enivrez pas de vin » et la phrase se termine à la fin du verset 21 « Dans la crainte de Christ ». En grec, il y a une phrase ici, de 18 à la fin de 21. Okay? Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une pensée. Là. Paul est en train de dire une idée dans une phrase. D'accord? On sait ça avec le temps des verbes et la structure de la phrase, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de point, pas de virgule. En tout cas, vous ne savez peut-être pas, là, mais il n'y avait pas de point, pas de virgule à l'époque. Ce qui nous permet de le dire, c'est la structure, le temps des verbes, les sujets, les compléments, tout ça. Donc, c'est une phrase que j'ai ici qui commence au début du verset 18 et qui se termine à la fin du verset 21. Stott, lui, voyait un élément communautaire. Il dit, cette directive-là est donnée à une communauté. Et en quoi est-ce qu'il voit le fait que c'est donné à une communauté plus que juste à des individus? C'est que lui voyait ça comme les marques, ce qui suit, puis les marques sont très, très communautaires. Donc, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ou soyez remplis de l'Esprit. Maintenant, regardez ce qui suit après, là. Essentiellement, c'est des actions qu'on vit en Église, dans nos rapports ensemble, les frères et sœurs. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est au pluriel. Donc, il y a l'idée que c'est l'Assemblée qui est en train de le faire. Rendez continuellement grâce à Dieu. À Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il parle des rapports dans l'Église, des relations dans l'Église. Donc, Stott voyait ça comme une directive qui est donnée à la communauté, à l'ensemble des croyants. Et c'est l'ensemble des croyants qui, ensemble, va être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque individu va être rempli de l'Esprit, mais c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble. C'est intéressant, là, depuis qu'on fait l'étude sur l'Esprit-Saint, il y a beaucoup d'éléments qui sont à vivre en Église, plus qu'individuellement. Mais est-ce qu'il y a raison, est-ce qu'il y a tort? En tout cas, il y a un élément communautaire, ça c'est clair dedans. Et puis, selon lui, à la question « Comment est-ce qu'on fait pour être rempli de l'Esprit? » Stott, il dit que c'est quelque chose que tu cherches tout le temps. Tu cherches, tu le demandes au Seigneur, tu cherches à avoir cette disposition-là. Parce que pour lui, quand tu es rempli de l'Esprit, tu vas porter ces fruits-là, tu vas chanter des cantiques, tu vas être rempli d'actions de grâce. Pour lui, ce n'est pas la manière d'être rempli de l'Esprit. Une autre personne va dire, comment tu fais pour être rempli de l'Esprit? Bien, tu chantes des cantiques pour penser au Seigneur, tu rends grâce, tu cultives une attitude de soumission envers les frères et sœurs, puis là, tu vas être rempli de l'Esprit. Stott, il dit non, tu cherches la plénitude de l'Esprit, puis ça va donner ces fruits-là dans ta vie. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Je ne suis pas sûr qu'il y a une réponse définitive. D'accord? Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a une réponse arrêtée. D'accord? Mais on est juste en train d'apprendre à regarder un texte comme il faut puis essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alain. Oui. Oui.
Sauf qu'on pêche quand même individuellement et que notre péché peut influencer l'Église. De la même façon, l'Église peut se retrouver, comme on l'a étudié dans le temps pour l'histoire de l'Église, que l'Église peut se retrouver dans une direction opposée à l'Esprit et qu'une personne remplie d'Esprit peut s'opposer à la direction de l'Église.
Oui.
C'est aussi possible.
Oui. Puis en fait, je veux juste répéter un peu ce que tu as dit. En gros, ce qu'Alain dit, c'est qu'il y a un élément individuel, et même s'il y a un élément communautaire, on pourrait se retrouver dans une situation où une, deux ou quelques personnes dans l'Église sont en train d'obéir à l'Esprit-Saint, puis le reste de l'Église n'est pas en train de le faire, puis il y a des tensions dans l'Église. L'histoire de l'Église est remplie de situations comme celle-là, puis les Écritures aussi sont remplies d'histoires comme celle-là. Alors, je dirais oui. Et je dirais, ça irait un petit peu dans le sens de ce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens, lorsque Paul dit de ne pas éteindre l'esprit, et qu'on a vu que Paul est probablement en train de parler d'une situation où Dieu est en train de faire une œuvre par son esprit au milieu de l'assemblée. Puis là, Paul donne la directive, éteignez pas cette œuvre-là qu'il est en train de faire. Ça veut dire que je peux me retrouver dans une situation où il y a une partie de l'assemblée qui cherche à éteindre cette œuvre-là par des motifs, de la peur. Admettons. Je vous donne une idée complètement folle. Admettons qu'on déciderait que c'est le temps d'avancer, tu sais, pour que l'Église grandisse, puis on s'en va s'acheter un bâtiment qui coûte cher. Tu sais. Admettons que ça arriverait un jour dans l'histoire de cette Église-ci. Et que ça. Là, il y a des individus qui disent, « Oh, attends un petit peu, ça veut dire qu'il va falloir que j'embarque puis que je donne plus. » Ça va me chercher dans mon porte-monnaie, dans mes projets. Est-ce qu'il pourrait avoir une réaction charnelle de la part de certaines personnes dans l'Église qui diraient non, non? Je pense que ce n'est pas le temps. Je pense qu'on n'est pas rendu là. D'accord? Alors, ça serait concret. Puis là, c'est une situation très pratique où dans une église, les gens vont parler, puis il y en a qui vont dire, oui, il faut le faire. C'est la mission, c'est le royaume, il faut le faire. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, je pense qu'on n'est pas prêt. Les motifs, quels sont les motifs? Est-ce que c'est les bons? Est-ce qu'ils sont en train de considérer que ce n'est pas le temps? Ou est-ce que c'est des motifs charnels qui font qu'ils s'opposent à ça? Admettons. Ça serait un exemple. Et je pense qu'on aurait une situation où tu aurais des gens qui seraient possiblement en train d'éteindre une œuvre de l'esprit. Oui, Jean-Sébastien. Oui, en fait, c'est... Non, mais c'est clair qu'on a un effort à faire pour être rempli de l'Esprit. Paul dit, soyez rempli de l'Esprit. Puis je pense pas que Paul est comme en train de prononcer une bénédiction, tu sais. Soyez rempli de l'Esprit. Non, c'est une directive. Sois rempli de l'Esprit, fait que tu as quelque chose à faire. Stott, il dirait, va dans prière, puis supplie Dieu que tu sois rempli de l'Esprit. Puis quand tu vas être rempli de l'Esprit, tu vas te mettre à porter tous ces fruits-là. D'autres personnes vont dire, non. Commence à chanter des cantiques. Commence à entretenir ton âme avec des cantiques. Cherche une attitude de soumission envers les frères et sœurs. Tu vas être rempli d'Esprit. Fait que la question, c'est pas est-ce que moi j'ai un effort à faire? Est-ce que moi j'ai un rôle à jouer? Moi j'ai un rôle à jouer, il y a une directive qui m'est donnée. J'ai un rôle à jouer. Par où je commence? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse définitive, là, d'accord? Mais vous voyez, on est juste en train de regarder le texte et d'apprendre à réfléchir avec la parole de Dieu. Puis quand on ne le fait pas, on se retrouve avec des idées folles comme la mienne de dire la plénitude de l'esprit, ça m'arrive peut-être une fois par mois. Là. Puis là, j'ai fini de prêcher un dimanche matin, puis là, je descends, puis oh man, j'étais en feu le matin, j'étais rempli de l'esprit. OK? Où tu as pris ça dans la parole pour faire un lien entre la plénitude de l'Esprit-Saint, puis tu étais tout excité un matin? Y a-t-il nécessairement un lien? Oui?
C'est ça qui est l'idée aussi, pour aller dans ce sens-là, c'est de vous connaître tout. Vous connaître juste de voir
Avec la parole. Oui, oui, oui. Donc, c'est de connaître l'ensemble des Écritures. Excellent. On avance parce qu'on a quand même pas mal de matière encore à voir. On n'a pas donné beaucoup de réponses. Je pose beaucoup de questions à date. Oui? Oui? Ben non, je dirais qu'à ce moment-là, il y a une partie de l'Assemblée qui cherche à éteindre l'œuvre de l'Esprit et qui doit se repentir à ce moment-là. Bien, c'est ça. OK, je comprends votre question, je pense, là, mais l'Esprit Saint ne fait pas parfaitement son œuvre. C'est clair qu'on a un rôle à jouer, pour reprendre le commentaire de Jean-Sébastien tout à l'heure. C'est clair qu'on a un rôle à jouer. On a des directives dans les Écritures comme « N'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. » Lorsque les apôtres nous parlent du Saint-Esprit, ils ne font pas que nous informer de l'œuvre que l'Esprit va faire envers nous. Ils nous parlent de notre attitude par rapport à l'Esprit. Et donc, est-ce que c'est l'Esprit qui ne fait pas son œuvre ou est-ce que c'est nous qui refusons qu'il fasse son œuvre? D'accord? Oui, je dirais que Dieu peut choisir ça, c'est clair, on va aller dans les actes, puis on va voir des situations où c'est Dieu qui le décide. Dans ce cas-là, il nous donne une directive ici. Donc, il y a un élément, il n'y a pas juste Dieu comme seul agent déterminant dans ma plénitude de l'Esprit, puisqu'une directive m'est donnée d'être rempli de l'Esprit. Est-ce que vous voyez la nuance? Dans le livre des actes, on va aller voir des exemples où ça semble être juste une intervention de Dieu. Tu sais, à la limite, la personne est assise là, puis pouf, elle est remplie de l'esprit, puis elle commence à faire quelque chose remplie de l'esprit. Elle n'a rien fait pour ça. Mais ici, c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament, il y a un ordre qui m'est donné. Soit rempli de l'esprit. OK, comment je fais ça? Et là, donc, moi, je suis un agent déterminant dans cette plénitude-là. Ce n'est pas juste Dieu dans ce cas-là. Alors, vous allez dans une bonne librairie chrétienne. Des fois, je voulais juste faire le commentaire aussi parce que ça fait partie de ce qui alimente nos pensées. Des fois, on va trouver des approches un peu simplistes où on va chercher des images pour essayer d'illustrer qu'est-ce que c'est la plénitude de l'esprit. Vous pourriez tomber sur un petit livre qui dit « Voici comment on est rempli de l'esprit ». C'est comme la respiration. D'accord? T'expires, tu confesses tous tes péchés. Puis l'inspiration, c'est que tu te remplis de la parole, puis de la prière, tout ça. Puis là, tu vas être rempli de l'esprit. Vous allez trouver des livres comme ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil d'expirer. Tu sais, je pourrais prendre l'illustration. J'expire, je sors l'oxygène qui est plus bon, l'air qui est plus bon, qui n'est plus d'oxygène. Puis je confesse mes péchés. Puis j'inspire, je me remplis de la parole, la prière, la louange, tout ça. Puis là, je vais... C'est juste que c'est pas clair que j'ai le droit de faire un lien entre ça et être rempli de l'esprit. Donc, tu peux donner ce conseil-là à tous les chrétiens de faire ça. Est-ce que ça va produire la plénitude de l'esprit? Bien là, c'est pour ça qu'on est en train de regarder le texte. D'accord? Alors, on est à une époque pragmatique. On cherche des formules. Puis il y a des petits livres qui circulent, puis c'est des formules. Est-ce que ça tient avec ce que les Écritures disent ici? D'accord? On va regarder les Écritures ensemble. Je vous ai mis trois passages dans le livre des Actes. Alors, je vais les lire moi-même ici. Si vous voulez tourner, allez-y, mais on va y aller un petit peu rapidement. Il nous reste juste 15 minutes. Je voulais juste vous montrer d'autres passages qui parlent de plénitude de l'Esprit pour qu'on voit s'il y a un lien direct entre les deux, entre Éphésiens 5, 18 à 21 et ces passages-là. Alors, évidemment, il y a le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu au tout début du livre des Actes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, Jésus leur avait dit, « Attendez ici, Le Saint-Esprit va vous être donné. Le Saint-Esprit va venir sur vous, là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est clair qu'il y a l'idée de la plénitude de l'Esprit. Puis là, dans ce cas-là, la plénitude de l'Esprit, il y a un « et ». Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. À plusieurs reprises, dans le livre des Actes, lorsque la plénitude de l'Esprit, il y a une conjonction qui vient ajouter quelque chose qui se passe. Ils furent remplis de l'Esprit et ils annoncèrent la parole. Ils furent remplis de l'Esprit, parlèrent en d'autres langues. Ils furent remplis de l'Esprit et. À d'autres passages, on va lire, c'est son cœur était dans la joie, il était rempli de joie et du Saint-Esprit. Je pense que je l'ai cité. Jésus ayant annoncé aux apôtres qu'il recevrait sous peu l'Esprit de Dieu, nous voyons probablement ici cette expérience du baptême de l'Esprit. Ça, c'est ma compréhension. Mais tout à la fois une plénitude de l'Esprit. J'ai l'impression, en étudiant les Écritures, que les apôtres ici ont vécu les deux expériences en même temps. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, parce que je ne pense pas que la plénitude de l'Esprit, c'est toute cette prophétie dans Joël qui dit « Mon Esprit va vous être donné ». Je pense que ça, c'est lorsque l'Esprit vient habiter en toi, tu es baptisé de l'Esprit, il vient habiter en toi de manière permanente. Mais là, au moment où eux autres ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été aussi remplis de l'Esprit. Et probablement qu'il y a eu les deux expériences à la fois. Une question que nous pouvons nous poser, bien sûr, est de savoir si cette expérience de la plénitude de l'Esprit est la même, je m'excuse, j'ai encore une faute, dont Paul parle dans Éphésiens 5, si la plénitude de l'Esprit et si la plénitude de l'Esprit implique nécessairement ces manifestations telles que le fait de parler en d'autres langues. Quand Paul, dans Éphésiens 5, il dit « Soyez remplis de l'Esprit », est-ce qu'il va y avoir ces manifestations-là quand je vais être rempli de l'Esprit? Nous pouvons observer que la plénitude de l'Esprit dans les actes et dans les évangiles est souvent accompagnée d'une autre action. Comme je vous dis, il y a souvent un « et ». Rempli de l'Esprit et il faisait ça. Ils étaient remplis de l'Esprit et ils annonçaient la parole. Un autre texte, Actes 13, 50 à 52. « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Voyez-vous le « et » là? Dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, la plénitude de l'Esprit est associée avec quelque chose d'autre. Là, ici, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 4, 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Il y a encore le « et ». La plénitude de l'Esprit passe à l'action. Il est intéressant et probablement important de remarquer que nous ne voyons pas de gestes volontaires de la part des chrétiens qui produiraient systématiquement la plénitude de l'Esprit dans les passages précédents. Ça, c'est important dans mon observation à moi, là, puis dans ma conclusion à moi. Il y a des moments où tu peux vivre une plénitude de l'Esprit, c'est Dieu qui la donne d'une manière souveraine. Et j'ai tendance à faire une distinction entre ça et ce que j'ai dans Éphésiens 5. Parce que les situations où il y a une plénitude de l'Esprit dans les actes, je ne vois pas les disciples répondre à une directive. Je vois rarement un geste posé par les disciples qui pourrait conduire à ce qu'ils soient remplis de l'Esprit. Je vois une intervention de Dieu, puis ils sont remplis de l'Esprit. Est-ce que vous me suivez sur ça? Oui. Oui. Absolument, ils sont en train d'obéir. En fait, c'est clair que quand tu es rempli de l'Esprit, tu n'es pas en train de vivre dans le péché. Donc, à chaque fois qu'on a des plénitudes de l'Esprit, c'est des gens qui marchent bien à ce moment-là dans le Seigneur. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y avait une volonté de la part de ces personnes-là d'être rempli de l'Esprit? Est-ce que ces gens-là étaient en train d'obéir à une directive de Dieu pour dire, là, je cherche la plénitude de l'Esprit? Je ne pense pas dans le livre des Actes. Je pense qu'ils marchaient avec le Seigneur. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce cas-là, je dirais qu'ils attendaient ça. Ils attendaient de recevoir l'Esprit Saint. Dans les autres cas, est-ce qu'ils étaient en train de poursuivre ça? Est-ce qu'ils étaient en train d'essayer d'obéir à une directive? Je ne semble pas le voir. Ça semble être une action souveraine de Dieu. Oui? Oui. L'avertissent que ça va aller mal. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Je pense que Dieu est en train de confirmer à Paul qu'il va souffrir. Puis je pense que les disciples qui sont informés par l'Esprit qu'il va souffrir, ben ils disent OK, donc vas-y pas. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'y aille. Dieu fait juste confirmer que je vais souffrir. C'est comme ça que je le comprends moi aussi. Et donc l'œuvre de l'Esprit n'est pas incohérente. C'est les inquiétudes des frères, l'amour pour Paul qui fait qu'il dit « Oh, fais pas ça ». C'est ma compréhension, en effet. Il reste 10 minutes, on va essayer de tirer une conclusion. Alors, on va juste relire le passage. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Je pense qu'il y a un élément important dans le fait, là je vais juste tirer des conclusions, je pense qu'il y a un élément important dans le fait que c'est une directive qui se vit en communauté essentiellement. Je pense que le fait qu'on va être soumis les uns aux autres, ça va être un indice qu'on est en train de marcher dans la plénitude de l'Esprit. Je ne pense pas qu'on peut dire si on fait ça, ces choses-là, pour être rempli de l'Esprit ou on les fait parce qu'on est rempli de l'Esprit. Ce que je semble comprendre, c'est fais-les, puis ça va confirmer que tu es rempli de l'Esprit. D'accord? Fais ça. Fais juste t'appliquer à faire ça. Et si tu ne l'étais pas, alors laissez-moi vous donner un exemple pratique. Mon cœur est accablé, mon cœur est rempli d'inquiétude. Situation, je vois Cynthia, un des enfants qui est malade, puis ça perdure, tu sais, la bronchite qui s'installe, puis pff, le médecin est inquiet un peu, ça commence à remplir mon cœur d'inquiétude. Je dis, ouais, les Écritures me disent que je ne devrais pas m'inquiéter, je devrais aller déposer mes soucis au pied du Seigneur. Fait que là, Cynthia décide de commencer à prier, puis juste de dire, moi, je vais chanter des louanges au Seigneur qui parle de la souveraineté de Dieu puis de la bonté de mon Père Céleste. Donc, je dirais, si Cynthia était dans l'inquiétude, elle n'était peut-être pas remplie de l'esprit à ce moment-là. Quand on ne parle pas d'avoir une pensée inquiète puis de la remettre au Seigneur, mais tu sais, ça fait, tu deviens accablé après une journée d'inquiétude ou quelque chose. Elle n'était peut-être pas remplie de l'esprit. Mais à tout le moins, en s'en allant chanter des cantiques puis entretenant son cœur avec des pensées qui la tournent vers le Seigneur, qui déclarent la souveraineté de son Père, la bonté de son Père envers elle, mais si elle n'était pas, elle va l'être. Ça aurait pu être l'inverse aussi. Parce qu'elle était remplie de l'esprit, il arrive cette situation-là, puis elle décide spontanément de chanter des cantiques plutôt que de vivre de l'inquiétude. Bon, mais si elle ne l'était pas, elle va l'être. Vous comprenez? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a un avant puis après, mais fais-le, puis tu vas t'assurer à quelque part de l'être. Tu vas peut-être le faire parce que tu es rempli de l'esprit, mais si tu n'étais pas rempli de l'esprit, tu vas être rempli de l'esprit après parce que tu es en train de faire ça. Pour donner un autre élément concret à ça, ce que ça veut dire, si je le mets dans le contexte de la soumission mutuelle, parce qu'après Paul, là, il part sur la soumission. Hein? Soumission dans le couple, soumission des parents envers les enfants, soumission des esclaves envers les maîtres. Puis il commence avec cette idée-là de soumission générale les uns envers les autres. Donc, il part sur ce sujet-là. Une chose qui m'inquiéterait personnellement, c'est si généralement j'étais quelqu'un qui avait une attitude d'insoumission. Si pour moi, écoutez les frères qui sont en train de me dire, je vous donne un exemple sans rentrer dans les détails, mais on a pris une décision au conseil il y a une semaine, au conseil des anciens, puis là je consulte les anciens, puis je dis, les gars, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça? Il me semble que c'est pas sage, il me semble qu'on en a fait assez, là, puis il faut arrêter. Puis là j'écoute les gars, ils parlent, tout ça, puis là les gars ils disent, on te demanderait de faire ça, Yannick, encore. C'était quoi mon attitude? Est-ce que mon attitude, c'était, hey, moi, je suis un serviteur de Christ. Je ne le ferai pas, mais vous me demandez de le faire, je le fais. Ou est-ce que c'est toujours des luttes perpétuelles, ces questions-là de soumission mutuelle, de cette idée que je ne suis pas propriétaire de moi-même, j'appartiens à Christ, puis concrètement, là, parce qu'appartenir à Christ, c'est assez théorique. Hein? Moi, j'appartiens à Christ, fait que je fais ce que je veux, il me dit toujours ce que j'ai à faire. Non, on va être plus concret que ça, là, j'appartiens à Christ, donc j'appartiens, entre guillemets, à l'Église. J'ai été greffé au corps de Christ, je suis au service de l'Église. Et donc, je vais être à l'écoute de ce qui se passe, puis des demandes, puis des besoins, puis des situations, puis des réprimandes, puis des exhortations, puis je suis toujours dans une attitude où je dis, « Es-tu en train de me parler, Seigneur? » Quelqu'un qui me dit que je suis orgueilleux. C'est toi qui me parles? Là? OK, je suis à l'écoute, j'essaie de voir. Est-ce que, pour revenir sur les prophéties, j'essaie de discerner si ça vient de Dieu ou non. J'écoute. Peut-être que oui, peut-être que j'ai des choses à changer dans ma vie. Donc ça, je pense que c'est un élément important lié à la plénitude de l'esprit. Alors, quelqu'un qui va avoir une espèce d'attitude de Lone Ranger, qui fonce puis qui s'en va dans ce sens-là, puis lui, il est rempli de l'esprit. Mais il n'y a pas de dimension communautaire. Il n'est pas soumis à aucune église. Pas sûr qu'il peut justifier ça avec les Écritures. Moi, je pense qu'il n'est pas rempli de l'esprit, puisqu'un des éléments, soit pour être rempli de l'esprit, ou soit parce que tu es rempli de l'esprit, c'est que vous êtes soumis les uns aux autres. Là, ça pose une grosse, grosse question sur les gens qui ne sont pas attachés à une assemblée, là. D'accord? Puis qui vivent leur vie chrétienne seule, parce que l'Église est tout croche. Ça, ce serait un élément important que moi, je voudrais souligner ici. Une chose à remarquer aussi, c'est que un des thèmes importants de la lettre aux Éphésiens, c'est l'unité dans l'Église, l'unité au sein des frères et sœurs. Et c'est facile de faire le lien entre ces versets-là et l'unité, d'accord? La soumission mutuelle, désirer s'entretenir les uns des autres par des psaumes, des cantiques, entretenir notre propre cœur. Alors moi, je le résumerais comme ça. Comment est-ce que je fais pour être rempli du Saint-Esprit? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je vais appliquer mon cœur à chanter des cantiques, à garder mes pensées près du Seigneur. Je vais appliquer mon cœur à servir dans l'Église. Je vais appliquer mon cœur à être reconnaissant pour ce que Dieu permet dans ma vie, et les épreuves et les bénédictions. Et soit que ça va être un fruit de l'Esprit dans ma vie qui va amener cette plénitude-là, ou soit que ça va être comme ça que je vais avoir, soit que ça va être un résultat de la plénitude, ou soit que c'est ainsi que je vais avoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais je sais qu'en cultivant ça, je vais le faire. Alors, je termine avec une dimension pratique. Si tu vis ta vie chrétienne seul dans ton coin, puis que tu n'es pas intégré dans la vie de l'Église, tu n'es pas exposé au ministère des frères envers toi, que essentiellement c'est le dimanche matin, c'est là que les gens, que l'Église de Christ a un impact dans ta vie, je pense que c'est difficile de vivre la plénitude de l'Esprit. Honnêtement, je le crois. Parce qu'en fin de compte, le reste du temps, c'est toi puis l'Esprit Saint et l'Esprit du monde. D'accord? Il y a l'Esprit du monde, il y a le prince de ce monde, qui domine le monde, puis moi j'ai l'Esprit Saint, fait que moi je vais aller rempli de l'Esprit. Ça semble pas être comme ça que ça se passe. Et donc, l'importance d'être en communion avec des frères, d'être à l'écoute des frères, de s'entretenir ensemble par des cantiques, de voir ce que Dieu est en train de dire, de ce que Dieu est en train de me dire dans ma vie, je pense que ça, c'est un facteur très important de la plénitude de l'Esprit. Un autre élément pour résumer, la plénitude de l'Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement extraordinaire, mais c'est une directive qui est donnée à tous les croyants. Et donc, je crois qu'on devrait s'attendre à vivre cela quotidiennement, la plénitude de l'Esprit, et ne pas commencer à faire une espèce d'échafaud, une tablette sur laquelle on dit, hey, là, tu sais, une fois de temps en temps, moi, je suis rempli du Saint-Esprit, puis waouh, c'était à fond la caisse, mon ami, j'étais rempli de l'Esprit. Non, c'est une directive commune pour l'Église. Donc, je devrais m'attendre à vivre ça quotidiennement, la plénitude de l'Esprit. C'est bon? La semaine prochaine, je vais essayer de faire un résumé de ça, et puis possiblement qu'on va aller parler de la marche dans l'Esprit la semaine prochaine. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, ce matin, alors que je m'en venais, j'avais le cœur rempli d'inquiétude et de tracas. Et certainement, ce n'était pas, Seigneur, des fruits de ton Esprit dans ma vie. Mais j'étais ici au milieu des frères et j'entendais les nouvelles et je voyais toutes les belles choses que tu es en train de faire et mon cœur a été rempli d'actions de grâce, Seigneur. La vie que tu produis dans ton corps, Jésus, a chassé les inquiétudes de mon cœur et m'a rempli d'actions de grâce, de reconnaissance, Seigneur. Et je veux te bénir pour cela. Apprends-nous, Père, apprends-nous à entretenir nos cœurs avec ces cantiques, Seigneur, à cultiver l'action de grâce, à chercher à vivre cette soumission mutuelle qui va tellement nous distinguer du monde, Seigneur. Parce que nous voulons marcher dans la plénitude de l'Esprit. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci. On termine la semaine prochaine, c'est la dernière leçon. Puis après ça, on va en pause pour l'été. D'accord? Oui, je vais fermer mon...